Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Raphaël Simon.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour ce troisième entretien consacré à cet ouvrage que vous avez écrit récemment par aux éditions Artege. Il s'intitule « Choisi pour l'éternité » et on découvre cette belle histoire de Marie-Ange atteinte de la trisomie 21 qui est entrée en communauté, qui a vécu 33 ans dans cette communauté. Elle est décédée le 14 août 2020, veille de la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Alors, ce n'est pas par hasard que vous avez écrit ce livre, ce n'est pas par hasard que vous enregistrez ici, dans ce lieu de Lourdes, où Marie-Ange a reçu cet appel à la vie consacrée. Alors, on parle de vie consacrée en évoquant Marie-Ange, et on parle aussi d'une communauté et qui est unique au monde, les petites sœurs disciples de l'agneau. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous faire un peu découvrir cette communauté, Raphaël.
Alors une petite communauté, comme vous avez dit, qui a en son sein petites sœurs trisomiques, atteintes du trisomie 21, et petites sœurs valides. Elles sont neuf aujourd'hui, sept avec ce handicap et deux valides. Avec cette intuition de la fondatrice qu'elle pouvait vivre en commun cette communion, cet appel à être consacrée ensemble et à recevoir les unes les autres, à être un peu à l'école les unes des autres. Ça, c'est vraiment très beau. Il n'y a pas celles qui reçoivent et celles qui donnent. C'est vraiment dans les deux sens. Alors, il y a eu des étapes, parce que cette petite communauté, c'est quand même très spécial, effectivement. Évidemment, la vie, il y a des règles, il y a une règle de vie, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand elles ont un petit peu vécu ensemble, et puis la communauté s'est un tout petit peu développée, donc l'acte de naissance est 1985. Au bout de 5 ans, elles se posent quand même la question de leur statut. Est-ce qu'il faut qu'elles dépendent d'une autre congrégation, ou est-ce qu'il faut qu'elles aient leur propre indépendance? Elles s'en remettent à Monseigneur Jean Honoré, parce qu'elles dépendent à ce moment-là du territoire, enfin du diocèse de Tours. Et il n'est pas encore cardinal, Monseigneur Honoré reçoit Merline et lui dit « Je ne peux rien pour vous aujourd'hui, pas à cause du droit canon, parce que ce n'est pas prévu, mais je vous promets d'aller plaider votre cause à Rome. Ouais. » Voilà, ouais. Donc ça a été l'acte, j'allais dire, un peu de reconnaissance de l'Église, puisque en octobre 1990, il va reconnaître, enfin au nom de l'Église, comme association publique de fidèles laïcs. Ça sera la première étape, mais elles vont avoir encore une vie très cachée. Pendant encore 5 ans à peu près, jusqu'au moment où elle va changer de diocèse. Elles vont aller se mettre au Blanc dans le Berry, parce que là elles étaient dans une cité HLM, c'était pas très commode de vivre une vie plus communautaire et plus religieuse. Et Monseigneur Plateau, l'évêque de Bourges, va les autoriser à revêtir l'habit, pour montrer que ça n'est pas un centre de personnes handicapées, mais c'est vraiment une volonté de vivre une vie religieuse. Et la communauté va être érigée en institut religieux en 1999, donc reconnue par l'Église comme étant une
reconnaissance officielle.
Officielle.
Hein, au cœur même de l'Église. Alors 99, 97 aussi, je reviens un petit peu dans le passé, il y a l'histoire aussi de Marie-Ange et des rencontres, et une rencontre, je dirais, avec l'un des papes, Saint-Pape, Saint-Jean-Paul II, c'est pas rien.
C'est
passé comment?
Alors, ça se passe en 1997. Vous vous souvenez que Jean-Paul II, à ce moment-là, est en France pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse à Paris. Et son grand ami, le professeur Lejeune, est mort peu de temps avant. Et il demande à pouvoir prier sur la tombe du professeur Lejeune de façon tout à fait privée. Hein. C'était une rencontre tout à fait privée. Et donc, il n'y a que la famille Lejeune qui est présente, ainsi que 3 personnes avec un handicap qui représentent chacune une particularité. Et on demande à Marie-Ange, parce que voilà, les jeunes, enfin, étaient amis de cette famille de Marie-Ange, si elle veut bien représenter sa communauté. Et donc, Marie-Ange va rencontrer le pape Jean-Paul II, et elle va être très émue, donc elle verse une larme, et le pape, lui, comme on le connaît, la regarde avec son regard très doux, et lui dit « Faut pas pleurer !» Voilà. Et elle lui remet donc... une lettre en lui disant un petit peu ce qu'elle vit. Et
vous avez d'ailleurs, je me permets, puisque vous avez votre ouvrage et j'ai votre livre entre les mains dans ce studio, il y a, je dirais, cette photo aussi qui relate aussi cette rencontre extraordinaire entre Marie-Ange avec ce sourire, on voit bien, et le pape Jean-Paul II. Donc c'était le 22 août 97.
Oui, puis le pape va bénir cette petite communauté en disant que votre vocation est importante pour l'Église. C'est quand même quelque chose.
C'est un début de grande reconnaissance aussi de Jean-Paul II, oui, sur cette communauté.
Oui, oui.
Parce... Et c'est consacré.
Oui, et puis je pense que lui avait aussi l'intuition que les personnes handicapées devaient être au cœur de l'Église. Ça, c'est sa grande idée. Voilà.
Alors, on voit aussi quelques photos dans cet ouvrage où on découvre Marie-Ange, donc petit bébé, petite fille aussi, adolescente, puis jeune femme, et puis le jour aussi de cette prise d'habit, le 28 juin 1998, cette prise d'habit, un moment incroyable, miraculeux peut-être, pour Marie-Ange et au fond tous ses proches, ses frères et sœurs.
Oui, et c'est très émouvant parce que sa marraine, notamment, qui était présente ce jour-là, donc avant, elle ne portait pas l'habit, elles étaient plutôt voilà, en tenue chacune. Bon, et le père abbé va les revêtir de cet habit. Elles vont se tourner vers l'assemblée. Et là, elle a dit c'était magnifique, elles étaient comme autres. C'était comme si elles avaient, comme si le handicap en fait s'effaçait devant leur habit. C'était vraiment, voilà, je crois que ça a été vraiment un moment très fort.
Alors, on n'a pas tout dit, mais vous êtes, je rappelle, vous avez aussi fait deux séjours aussi au prieuré avec ces sœurs consacrées, et vous avez, je dirais, partagé avec Merline, sœur Florence, sœur Camille, sœur Véronique aussi.
Oui.
Grande amitié de Véronique depuis le départ. Qu'est-ce que vous avez pu, je dirais, poser, interroger auprès de ses sœurs rencontrées?
Bah d'abord, j'ai prié avec elles dans leur petite chapelle.
Première étape.
Chapelle Sainte-Bernadette, voilà.
Une histoire autour du nom de la chapelle.
Je crois qu'elles sont particulièrement proches, elles se sentent particulièrement proches de Sainte-Bernadette et de sa spiritualité, qui est d'être un simple instrument, j'allais dire, dans les mains du Seigneur, voilà, en reconnaissant leur fragilité, leur pauvreté, et en acceptant de se laisser aimer simplement, si je puis dire, par le Seigneur. Donc, dans cette petite chapelle, elle prit les offices. Hein. On a chanté, c'était les laudes. Et c'est vrai qu'on touche du doigt, là, un petit peu leur pauvreté, puisqu'elles chantent faux, puisque, voilà, y en a qui s'agitent, qui font du bruit. Mais c'était magnifique en même temps. En tout cas, moi, j'étais très touchée parce que ce jour-là, c'était le psaume qui disait « Le Seigneur m'a mise à l'écart parce qu'il m'aime ». Et je trouvais que ça faisait vraiment tellement écho à ce qu'elle vivait. Voilà, et de fait, j'ai essayé aussi de ponctuer ce livre de psaumes parce que Marie-Ange était imprégnée des psaumes.
Et, qu'elle connaissait par cœur.
dont elle connaissait, effectivement, qu'elle connaissait par cœur. Et par exemple, je prends juste un exemple, quand ce psaume 114, « Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé ». Et elle dit, ça c'est bien pour moi, elle dit Aline.
Oui, oui.
Vous voyez,
oui, voilà. Ça c'est Marie-Ange.
Tout à fait, oui. Tout à fait Marie-Ange. Elle avait une connaissance de l'évangile, d'abord parce qu'elle elle aimait vraiment l'écrire. Elle écrivait l'évangile, elle recopiait, Mais ce n'était pas de la copie simple et bête, j'allais dire. C'était vraiment une manière, je pense, pour elle de s'imprégner de l'Évangile, de le faire sien, de le connaître par le cœur, c'est le cas de le dire. Elle avait cette intelligence du cœur et Merline témoigne de ce que, dans l'Évangile du jour, quand on faisait la lecture de l'Évangile du jour, elle l'avait... Elle l'avait dans le cœur et elle était capable de ressortir juste une phrase pour montrer à quel point elle l'avait compris et comment elle le vivait dans la journée, c'est-à-dire pour aujourd'hui. Voilà.
Merline était impressionnée par cette petite sœur, Marie-Ange.
Je crois qu'elle a été...
Dépassée parfois.
Oui, je crois qu'elle a été bouleversée dès qu'elle l'a vue la première fois. Elle a compris que Marie-Ange avait ses fragilités. Et elle a dit cette phrase, elle a dit « Quand j'ai vu Marie-Ange, je me suis dit pour moi, c'était l'agneau. C'était ouais. comme l'agneau. Mais que si elle voulait rester, eh bien, nous la garderions parce qu'elle serait l'agneau au milieu de nous. »
Et voilà. Ce sont les petites sœurs disciples de l'agneau. Comment a été le nom de la communauté, le choix du nom
Alors, je pense que ça fait référence à l'agneau dans l'Apocalypse, les disciples qui suivent l'agneau partout où il va. Voilà, et puis peut-être un petit mot sur leur habit. Donc, leur habit, il est brun et blanc. Et parce qu'elles suivent la règle de Saint Benoît, bien sûr très tout à fait adaptée. Et il y a quelque chose aussi de la voie spirituelle, de la voie de l'enfant spirituel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Voilà. Oui. Alors bon, j'ouvre au fur et à mesure ce livre où l'on trouve au milieu de ce livre toutes ces belles photos avec Marie-Ange et puis cet habit et puis cette couronne aussi que Marie-Ange porte lors de son jubilé qui fête donc ses 50 ans et 30 temps de vie religieuse, elle est rayonnante, elle est presque au ciel. Elle ouvre les portes du ciel, Marie-Ange, avec oui. ce visage angélique et cette pureté.
Oui, alors elle porte aussi cette couronne sur la tête, couronne de fleurs que Merline lui a posée en lui disant « Tu seras comme une couronne brillante dans la main du Seigneur ». Hein, ça fait référence à Isaïe 62. C'est magnifique.
C'est la première petite sœur consacrée de cette communauté, atteinte de trisomie 21, qui est décédée.
Oui, à ma connaissance, c'est la première petite sœur, effectivement, trisomique, décédée.
Alors, si parmi les auditeurs, vous souhaitez découvrir peut-être un peu mieux cette communauté qui est unique, si vous connaissez autour de vous aussi des familles qui ont des enfants porteurs de la trisomie 21, eh bien, visitez le site de cette communauté. Le site, c'est www.lespetitessoeursdisciplesdelagneau.com. Je vous propose Raphaël Simon, auteur de cet ouvrage, de vous retrouver demain à cette même place, toujours dans ce sanctuaire de Lourdes, pas très loin de cette grotte Massabielle où avait prié petite sœur Marie-Ange. À demain.
Merci.